Hudson Taylor. Qui c'est qui c'est Hudson Taylor? Levez la main. Hudson Taylor, un serviteur de Dieu, disait que sa vie changeait quand il a commencé de constater qu'il n'y a pas deux causes, il n'y a qu'une seule. Parce que semble-t-il, très souvent, on dit, mais Satan fait ça. Attention, tout le monde est craintif parce que Satan est à l'œuvre. Hudson Taylor, pareil. Il a dit, ma vie a changé quand j'ai constaté, en fin de compte, il n'y a qu'une seule cause. Et ça, c'est Dieu. J'avais un pasteur qui m'a dit, la technologie, tous les dimanches, est possédée par des démons. Je crois qu'il plaisantait, bien sûr. Il plaisantait. Mais il semble-t-il, parfois, il arrive des problèmes comme ça. Et je sais que Dieu sait toutes choses. Et même notre réflexion aujourd'hui veut tourner dans ce sens quand nous préparons pour la Sainte Cène. J'avais plusieurs titres sur une liste pendant que je fais un message parfois. Si je pense à un nouveau titre, je mets ça, j'ai 5 ou 6 titres avant de finir et je choisis entre E1. J'avais terminé par choisir considérer Christ. Considérer Christ notre grand sacrificateur. Parce que nous avons été en train de considérer le livre de Hébreux. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. De prendre vos Bibles à Hébreux, chapitre 4. Alors, si vous suivez soigneusement la suite, les séries que nous avons faites jusqu'à présent, vous dites, mais vous avez sauté. Oui, j'ai sauté 1 à 14. Et on va faire ça pour une prochaine fois, la semaine prochaine. Parce que aujourd'hui, c'est le temps du mois où on consacre à la Sainte Cène. J'ai voulu sauter pour que nous ayons le verset que nous avons considéré tout au début du culte dans Hébreux chapitre 4. Et c'était ce verset. Alors, il n'est plus ici, mais regardez dans vos Bibles, chapitre 4, livre de Hébreux. Verset 15. Alors, si vous avez une Bible, mais vous ne savez pas comment manier une Bible, demandez à la personne à côté, vous travaillez tous les deux ensemble pour trouver. Il y a 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas une Bible, levez la main, on vous donnerait une Bible. Ce qui c'est qui n'a pas accès à une Bible ou vous n'en avez pas. Ok, regardez à une Bible. Ce qui était au tableau quand vous êtes entré tout à l'heure disait, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été qui, ce souverain sacrificateur, a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre du péché. Et puis le prochain verset, dernier du chapitre 4, approchons-nous donc, quand vous voyez donc, quand vous voyez ainsi, quand vous voyez c'est pourquoi, regardez en arrière, pourquoi il dit ça? Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'arrive pas à compatir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a subi toutes les tentations possibles à cause de ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde à afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Une chose qui était lancée partout pendant le temps de la Réforme était trois phrases. Quand les réformateurs a fait la décision à travers le temps de ne plus suivre l'Église établie. Trois drapeaux. Bon, il y avait les cinq solas dont nous en avons parlé avant, mais trois drapeaux qui utilisaient aucun sacrifice que le calvaire, aucun prêtre que le Christ, aucune confessionnelle que le trône de grâce. Et jusqu'à présent, nous avons une grande religion qui donne la messe, sacrifice, tous les dimanches. La messe est refaite, le sacrifice de Christ est refait, le vin et le pain est considéré par une intervention divine quand le prêtre, soi-disant, prie être transformé en sang réel et en corps réel. Les réformateurs de la Bible ne disent pas ça. Aucun sacrifice que le calvaire. Aucun prêtre que le Christ. Le voile du temple, le moment de la mort de Jésus-Christ, déchiré du haut jusqu'en bas. Et on peut entrer sans crainte devant le prêtre. Notre prêtre. Il y a des gens qui disent, mais vous, les baptistes, ou vous, les protestants, vous ne croyez pas dans le prêtre. Non, nous croyons dans le prêtre. Nous avons un prêtre. C'est ça. On n'a pas besoin d'un autre prêtre humain. Nous avons un prêtre humain. Jésus. Humain. Divin. Qui est maintenant à côté du Père et qui intercède pour chaque croyant. Et aucune confessionnelle que le trône de la grâce. On ne va pas à un soi-disant prêtre. Pourquoi je dis soi-disant prêtre? Ce n'est pas pour dégrader quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais le Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et j'avais noté dans ma prière tout à l'heure quand Jésus, ayant assis, mangé le dernier Pâques, il s'est levé. Tout a été mis à côté, il a pris la coupe qui reste, le pain qui reste, et il a distribué parmi ses disciples pour démontrer quelque chose qui est entièrement nouveau. Plus de prêtres, pas à part Jésus-Christ. Avant, il y avait des prêtres. Il y avait des prêtres qui avaient une fonction très importante. En fin de compte, nous en avons déjà parlé dans Hébreux. Nous avons parlé, par exemple, de... Ça, c'est la raison. Nous avons parlé en chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à Christ. Chapitre 2, rappelez. Semblable en toutes choses à ses frères. Le mot frère est très important parce que Christ, le chef de notre foi, est allé en avant, le leader de troupe, le leader de groupe, le chef de groupe, le pionnier, c'est une autre traduction, l'auteur de notre foi. Il est allé en avant, les gens qui seront ses frères viennent après. Il n'y a rien qui vont traverser que le chef n'a pas encore traversé. Afin qu'il puisse les appeler frères. Et il dit, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. On n'a pas passé beaucoup de temps là, mais il y a deux fois, nous sommes arrivés à chapitre 3 premier. C'est pourquoi, frère, saint, qui avait part à la vocation céleste, pose, est-ce qu'il y a des saints dans cette salle? Tous les saints, levez la main. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Est-ce qu'ils sont orgueilleux? Est-ce qu'ils sont à côté de la plaque? Est-ce qu'ils ne savent pas ce que c'est saint? Pas pour être ridicule, mais un homme qui s'appelait Jacques, qui connaissait le Seigneur, qui voit une sœur catholique à côté, il s'est mis à côté d'elle et dit, « Bonjour, je suis Saint Jacques. » Elle était un peu choquée. Il avait montré en Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Philippiens, chapitre 1, verset 1, désolé, presque tous les épîtres de Paul, l'épître de Paul aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe, aux saints qui sont à Thessalonique, aux saints qui sont à, où c'est encore, Galate, dans les églises de Galate, etc., ou Corinthe, ils étaient des saints mis à part, sanctifiés positionnellement en Christ pour passer toute une vie de devenir ceux qui sont, de devenir avec la justice imputée de Dieu, de vivre une vie qui est sainte de plus en plus jusqu'au moment de leur glorification avec le Seigneur au ciel. Mais c'est pourquoi, frère, saint, qui fait part d'une vocation, laquelle céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, parce que certaines professent qui ne possèdent pas. C'est toujours le danger, et l'auteur de Hébreux est en train d'adresser une accumulation de gens qui va appeler frères, mais qui sait très très bien, il y a certaines qui professent la religion chrétienne, ils confessent les doctrines comme leur credo, mais qui ne possèdent pas le Christ de leur foi qu'ils possèdent. C'est pour cela qu'il y a 6 avertissements. Nous en avons déjà vu 2 assez brièvement de ces avertissements. Et puis, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Une chose par rapport à ce verset avant de continuer, l'apôtre est souverain sacrificateur. J'avais mentionné que les Juifs, ils avaient beaucoup de temps pour 2 personnages qui, depuis le début de leur histoire juive, Moïse et Aaron, très, très, très exaltés dans leur considération, parce que Moïse était l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte et pour donner la loi, aux gens d'Israël. Ils vénéraient cette personne qui leur a donné les 10 commandements ainsi que les 614 autres lois qui sont dans les rites, les cérémonies, la loi civile. Mais le souverain sacrificateur, ce que Lévi va parler encore beaucoup plus, et ce qu'on va parler un peu ce matin, était Aaron, nommé par Dieu d'être celui qui intercède entre l'homme pécheur et Dieu tout saint. Et il vénérait la prêtrise de Aaron. Et maintenant, nous lisons, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, c'est Jésus. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Et je n'ai pas le verset. Regardez verset 16 encore. Nous avons déjà lu cela. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En tant que chrétien, depuis quelque temps, nous lisons verset 14 et nous sommes, verset 15 et nous sommes d'accord. Même verset 14, j'aurais dû lire un verset 14. Regardez. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons parce que, 15, nous n'avons pas un sacrificateur souverain qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Contraire, il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Oui, vous dites, c'est ma foi, je suis d'accord. Par contre, au moment de pression, au moment de tentation sévère, au moment où on est dans une situation où quelqu'un nous lance des insultes, où quelqu'un a recommencé pour le 10e fois quelque chose, il a lancé, il a manipulé paroles pour me faire ronger, le moment où je veux m'exploser de colère, mais je sais, j'ai un souverain sacrificateur qui a passé à travers ces moments afin que je puisse reposer en Christ, afin que je ne explose pas. Nous avons le tentateur qui dit, mais écoute, oui, c'est bien de dire que vous croyez en tant que chrétien que Jésus peut compatir avec nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous, mais écoute. Pas vraiment, hein. Il n'y avait aucune chose dans la nature de Jésus qui voulait répondre positivement vers le péché. Tout ce que Jésus avait en lui était contre ça. Et toi, tu n'es pas comme Jésus. Jésus n'est pas comme toi. Jésus ne peut pas vraiment comprendre, surtout pas par expérience. Donc, vas-y. Tu peux pas, quand même. C'est trop fort pour toi. Tu es incapable d'aller jusqu'au bout, de garder le repos de Christ, qu'il en avait déjà parlé, que nous allons voir la prochaine fois, te voulant. Il est allé trop, donc vas-y, c'est pas grave. Jésus n'a pas, oui, bien sûr, Jésus n'a pas fait du péché. Toi aussi, si tu avais été Jésus. Vous pensez comme ça? Ça m'arrive aussi à penser. Ça ne vient pas de Dieu parce qu'il est très très marqué. Jésus a parti à travers toutes les épreuves que nous avons jamais faites, mais annulées très souvent ou neutralisées par le fait que Jésus n'a pas vraiment passé à travers. Et les prochaines 5 versets existent pour répondre à ce problème. Où il va parler, et je ne mets pas sur l'écran, je vous ai demandé de regarder verset 1. Et je vais lire, essayer de voir 4 qualifications de sacrificateur pour que vous compreniez que votre raisonnement que le tentateur cherche à vous faire glisser dedans pour vous justifier vos péchés. Ah, on se justifie. Oui, je n'aurais pas dû ça, mais c'est la 11e fois que ça m'est arrivé. Et je n'ai plus. Dieu doit comprendre ça. J'avais le droit. En plus, Jésus n'a pas eu ça. Oui, il ne s'est jamais mis en colère parce que il est, et même si c'est, il est mis en colère, on dit que c'est une colère juste. Et donc, c'était pas une colère, pécheresse. Donc, Jésus n'a pas compris. Non, nous avons un souverain sacrificateur qui a été qualifié d'une manière pour enlever toute validité, toute excuse pour le chrétien se donne, cède à la tentation. En effet, nous n'avons aucun souverain nateur qui ne puisse pas compatir. Donc, approchons-nous. En effet, tout souverain sacrificateur, je vais lire jusqu'à la fin de verset 4. Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Verset 2. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verse 3, attention, parenthèse, ces versets ne parlent pas de Christ. Ils parlent d'un sacrificateur dans la foi. La qualification d'un sacrificateur juif est ce que je suis en train de dire. Et ce que l'apôtre est en train de dire. Donc quand il dit tout souverain sacrificateur, pris au milieu des hommes, établi parmi les hommes. Et puis verset 3, et c'est à cause de cette faiblesse donc qu'ils offrirent des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Je m'arrête là. Est-ce que vous avez noté? Je vous le donnerai. Le premier que nous voyons, c'est en verset 1. Un sacrificateur, pour être un sacrificateur valable, authentifié, qualifié, correctement, devait être un homme. Ça, c'est assez simple. Mais il pouvait pas être un ange. Il pouvait pas être une divinité. Il fallait qu'il soit un homme pour qu'il puisse représenter les hommes devant Dieu. Verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu. Alors, Christ est venu pour être notre grand sacrificateur. Il faut qu'il soit homme, né à Bethléem. Nous célébrons l'incarnation. Nous célébrons l'incarnation. Je préfère ça à Noël. Noël, c'est bon. Mais l'incarnation de Dieu. Dieu s'incarne à Noël. Pourquoi? Pour qu'il puisse qualifier, être le grand sacrificateur, arrivé, tout petit bébé. Il va grandir. Il va aller jusqu'au bout, jour après jour après jour après jour, étant en train de se qualifier pour être celui qui comprenne toutes nos faiblesses et même nos péchés, parce qu'il va terminer par imputer nos péchés sur lui pour mourir comme si c'est lui qui a péché. Il n'a pas péché. Mais il a pris la place de celui qui a péché, la même punition qui aurait dû aller vers le pécheur doit forcément aller vers son substitut. Donc cette personne, d'abord, doit représenter des hommes. Deuxièmement, dans le même verset, cette personne qui va agir en tant que souverain sacrificateur doit offrir des sacrifices pour faire face de la séparation entre l'homme et Dieu. Cette personne est là pour sacrifier une vie. Aaron, c'était son travail. Il fallait qu'il fasse ça tous les jours, des sacrifices quotidiens, matinales, et puis les sacrifices du soir, 365 jours et soirs par an, sans compter d'autres sacrifices qui ont eu lieu à travers. Sacrifier pour réaliser le salaire du péché, c'est la mort, séparation avec Dieu. Un agneau, un animal innocent meurt comme une image du fait que la personne, vous savez, quand ils amenaient leur sacrifice de péché, il fallait que eux-mêmes, ils égorgent l'animal. Et il fallait que eux, ils mettent, placent leurs mains dessus. C'est pas le prêtre qui fait ça. Oui, les sacrifices généraux. Mais quand un offenseur vient pour essayer d'être en règle avec le Seigneur à cause d'un péché, il fallait qu'il égorge lui-même. Il fallait qu'il mette ses mains sur cet animal en reconnaissant, c'est moi qui méritais ce qui a reçu cet animal. Mais hélas, il va repêcher. Il doit avoir encore d'autres sacrifices. Et sacrifice est la chose qui a dû se faire parce que l'homme est coupable. Le sentiment de culpabilité en nous est inéchappable. Il n'y a aucune personne sur la planète Terre qui n'a pas senti derrière lui ce monstre de culpabilité, qui cherche à fuir à gauche et à droite, qui cherche à se justifier quand il crie « Tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. » Un seul mot, morale, dans le dictionnaire, je crois que je vous avais déjà parlé de cela, c'est le mot « devrait », verbe « devoir ». Mais il aurait dû ou il devrait. Ça présume une responsabilité morale pas faite ou qui doit être faite. Je devrais faire ceci. Savez-vous, il n'y a aucun animal qui pose cette question. Que faut-il que je devrais faire moralement? Il n'y a aucun animal qui pose cette question, sauf des êtres humains. Nous sommes moralement créés dans l'image de Dieu et on pose cette question. Et on est conscient du fait que j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas fait. J'aurais pas dû faire ça, mais j'ai fait. Et je m'excuse. Je m'excuse. Qui c'est qui n'a pas entendu? Oh, je m'excuse. On pourrait demander que vous m'excusez, mais non, je m'excuse moi-même. Tant pis pour toi, je m'excuse. C'est une expression, on sait ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Et on s'excuse, on se justifie. On se met en égalité, pas par éliminer la faute, mais par égaliser la raison pourquoi nous sommes justifiables, plus ou moins. Nous n'avons pas un sacrificateur qui ne peut pas compatir. Oui, mais moi je suis trop faible. Surtout dans ce domaine ou ce domaine, si ça m'arrive, je ne peux pas, c'est trop. Une des évidences de la vraie vie en Christ, c'est que malgré ses sentiments et malgré la férocité de l'insistance d'un désir qui dit « Allez-y, allez-y, mettez-toi en colère, tu as raison !» Nous savons que nous n'avons pas quand même le droit, mais on est déjà prêt avec nos justificatifs préfabriqués. N'est-ce pas ? Un prêtre existe pour régler l'homme avec Dieu, pour améliorer la vie de la personne, pour traiter juridiquement, éthiquement, le mal moral fait que chacun sait au fond du cœur qu'ils sont coupables. Romains 2. Sa conscience porte témoignage à une loi écrite dans son cœur, sans avoir jamais lu les 10 commandements. Donc, un prêtre existe pour ça. Troisièmement, versets 2 et 3. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants, ce prêtre. Le prêtre qui qualifie d'être un souverain sacrificateur dans la religion juive, il fallait absolument qu'il soit quelqu'un compréhensible de l'ignorance, des égarements, puisque la faiblesse est aussi son partage. Il faut donc, ça semble peut-être un peu drôle, mais une des qualifications d'un prêtre, c'est qu'il soit faible. Il faut qu'il soit faible. Il faut qu'il soit pécheur. Et Christ, verset 5, ne sait, non, verset 3 encore, et c'est à cause de cette faiblesse, verset 3, c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices, pourquoi? Pour ses propres péchés. Ce sacrificateur juif devrait constater non simplement ses faiblesses, mais ses péchés. Et constater que je ne mérite pas être ici comme souverain sacrificateur ou même sacrificateur. Je ne mérite pas, je suis pécheur comme tous les autres. Je dois quand même faire toutes les cérémonies et choses rituelles pour que je me mette en règle, pour que je puisse donc faire l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire. Donc, il doit être faible. Il doit avoir des péchés. Pas difficile de choisir quelqu'un comme ça. Il n'y a personne qui n'est pas comme ça. Mais il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi, donc des Lévitiques. Ils étaient nommés, mis à part, pour cette œuvre de sacrificateur. Et on va revenir ici, parce que ça, c'est celui qui pose le problème par rapport à qui semble poser le problème par rapport à Jésus-Christ, mais le quatrième nous est donné, même dans le premier verset, mais dans le cinquième et le sixième verset, que nous n'avons pas lu, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. C'est-à-dire, cette personne n'a pas le droit de dire, il me semble que Dieu m'appelle d'être un sacrificateur. Non, ça se fait de l'extérieur. Dieu choisit cette personne. Il désigne le tribu. Tous les 11 tribus qui n'étaient pas lévites, ils n'étaient pas qualifiés biologiquement. Il fallait qu'ils soient parmi les lévites. Et puis des gens qui sont choisis pour être des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs sont nommés, désignés par Dieu. Christ aussi, verset 5, ne s'est pas non plus attribué la gloire à lui-même, S'OST, pour les anglophones c'est difficile à se dire. Il n'a pas fait ça lui-même, mais il la tient de celui qui lui a dit, ouvrez les guillemets des psaumes, tu es mon fils, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, tu, Dieu le Fils, et mon Dieu le Père, fils, Dieu le Fils, je, mon Dieu le Père, te, apostrophe, Dieu le Fils, est engendré aujourd'hui, comme il dit encore d'ailleurs dans un autre passage, tu, dit Dieu le Père à Dieu le Fils, est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, à entrer dans le monde à son incarnation à Bethléem, entrer dans son ministère en tant que sacrificateur, à partir de 30 ans, où Jésus, donc, prend une prêtrise qui n'était pas après Aaron, mais qui était après Melchizedek, où il va parler beaucoup après. C'est la première fois qu'il est inséré ici. Melchizedek, qui va montrer bien au-dessus la prêtrise de Aaron. Christ est nommé, pas pour 30 ans ou 25 ans ou jusqu'à la fin de la vie de quelqu'un, mais pour toujours, pour l'éternité. Ça se verra plus tard. Il doit être désigné par Dieu. Et puis quand nous lisons versets 7 et 8, nous rentrons dans un mystère très profond que la Bible n'en avait pas prédit en avance, qui ne peut pas correspondre que avec ses cris dans le jardin de Gethsémané. C'est par lui, dans les jours de sa chair, Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et puis il a pris, encore verset 8, c'est encore plus mystérieux, il a pris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus entrait après le repas avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané, comme il faisait tout le temps. Mais aucune chose a prévu ce qui va arriver maintenant. L'Ancien Testament n'en avait pas parlé. Il a parlé de sa croix, il a parlé de sa crucifixion, sa mort. Mais Jésus prend trois de ses disciples. Il ressent quelque chose. Il va plus loin dans l'ombre, et il dit, pour la première fois, Jésus demande quelque chose qu'il n'avait jamais demandé dans tout son ministère. Il demande que ses disciples viennent au secours de lui par prier. J'ai besoin que vous priez pour moi. Il est parti. Et nous lisons que, avec les pleurs et les larmes, et ce verset-y qui décrit exactement cela, avec des larmes et des prières et des cris, des sanglots, des sueurs comme gouttes de sang, il pouvait plus, il rentre voir ses disciples pour une deuxième fois, prier, il rentre encore, il rentre une troisième fois, prier, oh Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il n'était pas Dieu. Ah, il y a plein de choses Jésus ne comprenait pas dans son humanité. Plein de choses Jésus ne comprenait pas dans son humanité. L'extraordinaire, brutal, présentation d'une expérience qu'il n'attendait pas, était presque trop pour lui. Qu'est-ce que ça aurait pu être s'il peut vivre la vie d'un pécheur pour pouvoir dire, il comprend tous le sentiment de culpabilité, le sentiment de honte, le sentiment de désespoir qui sont venus sur Jésus, une chose qu'il n'avait jamais sentie avant. Jésus, qui luttait émotionnellement avec une idée qui était nouveau pour lui, qui a été pas prévue, qui était inattendue. Seigneur, est-ce vrai que tu veux que je passe à travers ça? Trois fois, il revient aux disciples, il ne comprend pas.
Mais j'ai cru, Jésus a compris tout. Non, Jésus n'a pas compris tout dans son humanité.
Exactement exprès pour qu'il puisse porter notre incompréhension, pour qu'il puisse porter notre désespoir, pour qu'il puisse porter notre culpabilité. Jésus n'est jamais devenu pécheur, il est devenu encore pire, péché, 2 Corinthiens 5, 21 dit. Il est devenu péché, sous le poids de culpabilité. Vous avez peut-être constaté un tout petit peu de ce sentiment. Vous n'avez même pas envie de regarder dans un miroir parce que vous avez été traître à vos propres principes, à votre propre moralité, à votre propre conviction. J'ai une conviction comme ça.
J'ai un homme qui me parle assez souvent, je suis un bon gars, je suis un bon gars, je suis un bon gars. Et j'ai un psy qui aide à me déculpabiliser, mais j'arrive pas. Et voilà. On existe pour se débarrasser de notre culpabilité, se sentir mieux, se sentir utile, se sentir aimé, se sentir approuvé. Approuvé. Tout le monde cherche l'approbation. On cherche l'approbation de Dieu. Mais on ne sait pas et on ne veut pas. Cet ami qui vient assez régulièrement et on parle ensemble, il veut mon aide à condition que je ne fasse entrer pas la seule chose qui peut le débarrasser de sa culpabilité, le libérer d'accepter comme substitut de ses péchés et de sa culpabilité Jésus-Christ. Jésus-Christ sentait les choses impensables. Il sentait la culpabilité. S'il y avait un miroir, Jésus n'aurait pas voulu regarder. Il se sentait sale, il se sentait sordide, il se sentait souillé. Vendredi soir, nous avons discuté deux mots. On a discuté que le premier, solitude et souillure. Deux choses que l'homme a besoin, fondamentales, depuis la profondeur de son existence. L'homme a besoin de traiter un problème de solitude relationnelle avec Dieu, avec des autres, et de souillure, tâche, culpabilité, mal. Il cherche à gauche et à droite et partout, et jusqu'au fond du cœur, et jusqu'à l'extrémité de la terre, pour se justifier et se sentir mieux. Et ça, c'est le travail d'un sacrificateur, de traiter ce problème, ce que Jésus-Christ a traité. Le dernier, c'était peut-être le pire, parce que Dieu a envoyé un ange pour que Jésus ne craque pas. Pas sous le douleur, pour le douleur qui allait venir. Il y a beaucoup de gens qui ont été crucifiés, pas pour minimiser la torture de la croix, mais pour dire qu'il y avait des stoïques qui, sachant qu'ils seraient crucifiés, il y a des milliers de gens crucifiés à l'époque, attention. C'était le moyen perfectionné par les Romains pour garantir la plus longueur de temps possible avant que quelqu'un dans le pire de souffrance possible puisse exister sans expirer. Ça peut aller jusqu'à une semaine. Sur une croix. Ils ont réussi, certaines. Stoïquement, pour pouvoir tenir à la fin. Tu m'as eu, d'accord? Mon corps. Mais tu ne m'as jamais vaincu mon esprit. Des gens sans Christ, des athées, des gens qui étaient entièrement pleins d'orgueil, ne voulaient jamais crier en colère ou en douleur. Ça existe. Si ces gens auraient pu humainement tenir le coup comme ça, combien plus Jésus aurait pu tenir le coup comme ça? Il aurait pu. Ce n'était pas la douleur, je suis convaincu. Beaucoup de gens disent, non, ils craignent la douleur physique. Ils ne craignent pas la douleur physique. Ils craignent le pire de choses, devenir accablé, de sentir le pénalité, l'enfer physiquement est le moindre de choses. Si vous voulez dire l'enfer n'existe pas, d'accord, c'est symbolique de quelque chose qui est encore pire. Parce que un métaphore ou un symbole est toujours moins que la chose qu'il représente. Ce n'est pas simplement de brûler du feu. La souffrance de ceux qui rejettent Christ est infiniment plus que simplement le maximum de torture physique possible. Et alors Jésus-Christ a subi ça. Troisième fois, il laissait dormir ses disciples. La bataille est gagnée. Le reste, excusez-moi, je ne peux pas minimiser la crucifixion, était facile par rapport. Jésus ne luttait plus sur la croix. Avec cette horrible ténèbre de péché, ces sentiments de culpabilité, ce savoir que je suis péché, je mérite ce qui me reçoit. Si quelqu'un est en Christ, dit Romains 8:1, pas simplement il ne serait pas condamné, il est incondamnable. Si quelqu'un est en Christ, il est incondamnable. Dieu lui-même n'est pas capable de condamner celui qui est justifié. La loi juridique divine ne permettrait pas ça. Par contre, Jésus-Christ, qui avait imputé sa justice aux chrétiens qui croient, et qui avait imputé les péchés à Jésus-Christ, quand il ouvre le dossier de Jésus-Christ, il ne peut pas condamner Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est condamnable. Chers amis, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité objective. Il n'y a aucun subjectivisme dedans. Jésus-Christ est condamnable. Il ressent sa condamnabilité. Il ressent son incapacité d'être justifié. Il ne peut pas être justifié. Il va mériter tout ce qui va arriver. Substitutionnellement. Il n'a pas simplement porté tes petites blessures, tes petites tentations. Il a porté ça. La fin logique, réelle de tous ceux qui nient Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Jésus a subi ça. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi on célèbre la Sainte Cène. C'est pourquoi on prend ces choses très simplifié, un morceau de pain, un petit chose de fruit de la vigne, et nous prenons ensemble, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir avec nos faiblesses, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Personne ne passerait pas un Gethsémané, même à l'enfer, que Jésus a passé pour ceux qui a sauvé, pour qu'il ne passe pas ça. Il comprend quand pour la dixième fois, vous supportez ça et vous ne pouvez plus, c'est fini. Non, vous pouvez. Non, vous ne pouvez pas. Mais en Christ, notre substitut, pas simplement dans la justification et dans l'expiation pour la justification, mais dans la sanctification. Il est notre sanctification. Il est avec nous pendant toute l'éternité.